Bonjour et bonjour Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle et nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors à ceux qui nous sont fidèles, je n'apprendrai rien, mais à ceux qui nous rejoignent, bonjour, welcome et toutes ces sortes de choses, j'apprendrai, je rappellerai que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent si possible sur des grands écrans blancs, oui vous savez là dans les salles de cinéma, depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons célébrer un grand acteur, 1m93 quand même, né le 17 juillet 1935, quelque part dans le Nouveau-Brunswick au Canada, en l'espèce Donald Sutherland, qui, eh bien, pour un homme de son âge, comme on dirait, tient toujours de très grands rôles dans le cinéma américain dont on sait pourtant qu'il n'est guère tendre avec les vieux, surtout quand ce sont des filles. Donald Sutherland, donc, dont nous allons égrener musicalement quelques titres phares de la filmographie, tout en évoquant sa carrière commencée comme disque jockey quelque part dans les radios locales là-bas du Nouveau-Brunswick, avant que, comme beaucoup d'acteurs américains, il ne fasse ses premières armes sur les scènes de théâtre, notamment aux côtés de rien moins que Rex Harrison, dans une pièce que je ne connais pas, qui s'appelle August for the People. Son premier rôle au cinéma, il le tient à près de 30 ans, en fait en 1964, et aussi curieux que ça paraisse, c'est dans un film d'horreur italien. Ça s'appelait en italien, sans l'accent certainement, avec les bons endroits, Il Castello dei Morti Vivi. Je crois que ça veut dire le château des morts vivants, ou quelque chose de ce genre. Bref, un premier titre, suivi d'un second la même année, Le Train des Épouvantes de Freddy Francis, un vieux routier du cinéma d'horreur à l'anglaise. Bref, rien qui ne le disposait à des rôles, je dirais, un peu plus consistants dans des films un peu plus intéressants. Mais dans les années qui suivent, eh bien, Donald Sutherland réussit à orienter sa carrière et y inclure des films qui sont des succès commerciaux, ce qui ne nuit pas, mais aussi des succès, je dirais, plus esthétiques et intellectuels. Alors, on va pas égrener toute sa filmographie, sinon nous n'en arriverions pas à la musique. Mais on va quand même citer le Morgan de Carol Rice, tourné en 1966, et surtout, les 12 salopards. Et oui, Donald Sutherland était un des 12 salopards, The Dirty Dozen, dans un film de Robert Aldrich, tourné en 1967, et qui fut un très très grand succès, qui en 1970 se fut suivi d'un autre, qui n'était pas moins aussi important, puisque Donald Sutherland tenait l'un des rôles principaux de MASH de Robert Altman, ce film assez décoiffant qui proposait de la guerre du Vietnam un point de vue finalement très comique, en tout cas très ironique, en tout cas très cynique, le genre de film qu'on ne ferait plus de nos jours et qui eh bien fut aussi étonnant que cela paraisse un triomphe commercial et donc pour Alan Alda qui était l'autre principal interprète masculin et Donald Sutherland, eh bien l'occasion de se réorienter, pardonnez-moi, vers des films bien éloignés des films d'épouvante du début. Alors on va passer à la musique, mais je citerai quand même en 1971 le Clout, je ne sais plus trop, d'Alan Pakula avec Jane Fonda, et bien évidemment le plus grand pamphlet anti-guerre de tous les temps, le Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo en 1971. Alors on va continuer à égrener la filmographie de Donald Sutherland, mais on va quand même passer à la musique et on va donc sauter quelques années, 1976 très précisément, où cette année-là est sous la houlette de Federico Fellini, et bien Donald Sutherland revêtit le personnage absolument redoutable de rien moins que Giacomo Casanova. Alors cela parut étrange quand on l'a pris, un acteur canadien d'1m93 dans un film de Fellini qui jouait le rôle de Casanova, et le résultat fut proche du chef-d'œuvre. On s'écoute un petit extrait de la bande originale de Nino Rota, bien sûr, s'agissant de Fellini dans 24 notes secondes. Thank you. Petite musique entêtante de Nino Rota pour un extrait dans la bande originale, tout simplement, du Casanova de Fellini. C'est comme ça que le film avait été présenté, Il Casanova di Federico Fellini, un film qui connut, avant même sa sortie, eh bien, de gros déboires, puisque le tournage de cette monstrueuse entreprise fut interrompu à plusieurs reprises, qu'en plus, c'est étonnant d'ailleurs qu'il ait choisi un tel sujet. Dans ce cas-là, Federico Fellini détestait le personnage de Giacomo Casanova, avec lequel pourtant il passa près de 3 années avec l'aide de ses complices habituels, Giuseppe Rotuno, directeur de la photographie, Danilo Donati au décor et Ruggero Mastroianni au montage, des décors particulièrement importants, puisque même s'il l'avait déjà fait dans des précédents films, c'est sans doute avec le Casanova que Fellini commença à s'enfermer complètement dans les studios et donc à recréer totalement son univers mental. Le film est entièrement tourné à Cinecittà, il n'y a pas un seul petit moment qui soit en extérieur, ce qui bien évidemment traduit une atmosphère tout à fait particulière au long des presque 2h30 du film, une sorte de schizophrénie mentale que Donald Sutherland eh bien, incarnait tout à fait magnifiquement. J'ai dit qu'on aurait pu s'étonner qu'un acteur canadien, donc anglo-saxon d'origine, interprète un rôle aussi italien dans un film aussi italien. Ce serait oublier que dans le cinéma italien, pour des raisons historiques que je ne détaille pas, la pratique quasi systématique, en tout cas à l'époque, était au doublage, c'est-à-dire à la post-synchronisation des voix. Donc, a priori, un obstacle de moins pour écouter Casanova en anglais, interprété donc par Donald Sutherland, notre héros de ce jour, qui en 1976, je l'ai déjà évoqué avant d'écouter cet extrait, eh bien, était un acteur extrêmement connu. Alors, je vous ai dit que j'avais sauté quelques années de sa carrière pour en venir directement à la musique. Il y a quand même au moins 2 films qu'il faut citer et qu'il a tourné entre Johnny s'en va en guerre et le dit Casanova. Le cultissime, quoique peu connu, Ne vous retournez pas, dans Don't Look Now de Nicolas Roeg, tourné en 1973, qui se passait à Venise, justement. On ne quitte pas l'Italie. Et puis aussi le caustique bizarre, extravagant Jour du fléau, The Day of the Locust de John Schlesinger, tourné en 1975. Un film qui se passait à Hollywood, au temps du cinéma muet qui s'efforçait de montrer eh bien, l'envers du décor de la fabrication de l'industrie du rêve, de l'usine à rêve, comme l'on disait à l'époque de Hollywood, comme l'on disait au cinéma muet, comme on le dit tout au long des années 30-40, où cette usine à rêve fonctionna à plein rendement. Eh bien, Le Jour du fléau, à une époque où on voyait beaucoup de films tournés dans ces années-là, comme L'Arnaque et quelques autres, s'efforçait, parfois avec maladresse, de dresser un portrait accablant de cet envers du décor. Et Donald Sutherland y jouait un des premiers rôles. Ensuite, eh bien, on le vit aussi toujours dans le cinéma italien, dans le Novecento de Bernardo Bertolucci, la fresque monumentale en 2 parties, aux côtés de Robert De Niro, de notre Guillaume Depardieu, ex-national, et de quelques autres. Et puis, ensuite, on le vit dans des films un peu plus improbables. On citera, par exemple, L'Hamburger, film sandwich de John Landis, toujours en 77, la même année que le Casanova de Fellini, ou l'American College du même John Landis en 1978, les films pour adolescents avec popcorn, si vous voyez ce que je veux dire. On le vit aussi dans un remake de L'Invasion des profanateurs de Sépulture, un chef-d'œuvre de Don Siegel tourné quelque part dans les années 50 et que Philippe Kaufman remit au goût du jour en 1978 de façon à peu près correcte, avant qu'Abel Ferrara, bien des années plus tard, s'y essaie à son tour, mais là, ce fut absolument calamiteux. On va s'écouter un nouvel extrait d'une autre bande originale pour un film, cette fois tourné en 1978, alors qu'il lui était une réussite, un film absolument délicieux, signé par Michael Crichton. Alors Michael Crichton, qui nous a quittés assez récemment, qu'on connaît plus pour avoir été l'auteur du livre Jurassic Park, duquel Steven Spielberg et ses suivants se sont inspirés, pardonnez-moi, pour 3, 4, je ne sais plus, au moins 3 films. Mais Michael Crichton a lui aussi tourné des films adaptés de son propre roman qui s'appelait Un train d'or pour la Crimée. Il faut croire qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. L'histoire se passe quelque part au milieu du 19e siècle, en 1855 très précisément. Il s'agit d'attaquer, vous l'avez compris, un train d'or qui part pour la Crimée. Et dans les rôles principaux de ce film, eh bien, on retrouve 2 mâles, des vrais, comme on en trouve dans les années 80, Sean Connery, le mal par excellence sans doute, et à ses côtés Donald Sutherland, ces deux-là sont jubilatoires ensemble, surtout qu'ils se disputent les faveurs de la délicieuse Leslie Handon, et que le tout, comme si cela ne suffisait pas à notre bonheur, est illustré par une musique de notre cher Jerry Goldsmith. Les fidèles de 24 notes secondes savent à quelle aune on apprécie Jerry Goldsmith. Donc on va s'écouter sans plus attendre le genre d'extrait qui fait bien au petit déjeuner le matin, mais quand vous voulez, la grande attaque du train d'or, The Great Train Robbery, sur Divergence FM. Ah, bah, il faudrait écouter ça tous les matins, un extrait de la bande originale de La Grande Attaque du Train d'Or, un film de Michael Crichton tourné en 1978, une musique de Jerry Goldsmith. Smith, c'est mieux. Avec dans les rôles principaux Sean Connery, Donald Sutherland, auquel nous consacrons l'émission de ce jour, et Leslie Handon pour un film vraiment absolument délicieux. Une reconstitution sans prétention et avec beaucoup d'humour, et bien donc du milieu du 19e siècle, dans laquelle reconstitution Donald Sutherland faisait absolument merveille. Il fut un habitué des rôles de ce style, puisque cette même année 1978-79, on le retrouvera dans une sorte de spin-off, pourrait-on dire, de Sherlock Holmes, en tout cas un faux Sherlock Holmes, mais il y en a tant. Ça s'appelait Meurtre par décret, Murder by Decree de Bob Clark, et c'était aussi absolument délicieux pour un acteur auquel donc nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, qui ne l'est pas moins, et qui ensuite, puisque sa filmographie est tout à fait imposante et loin d'être terminée, eh bien s'illustra dans les genres les plus larges et dans les films les plus différents. Il est un peu difficile de piquer ou de picorer dans une filmographie qui inclut en 1980 un film de Robert Redford, peut-être même le premier film de Robert Redford, ça s'appelait Ordinary People, des gens comme les autres, ou un film sur Gauguin, dans lequel Donald Sutherland jouait bien sûr le rôle de Gauguin, ça s'appelait Gauguin, le loup dans le soleil, Henning Carlsen en 1986, alors beaucoup de films un peu plus limites, du genre à gros budget et petit scénario, comme Le Virus de John Bruno, tourné en 1998, ou Le Haute Trahison de George Pancosmatos, oui, le réalisateur de Rambo 2 lui-même, tourné en 1996. Bref, des choses un peu plus improbables et musicalement aussi. Du coup, on va revenir en 1981 et on va s'écouter un petit extrait d'un film qui, lui, se passait en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même plutôt vers la fin, puisqu'on racontait l'histoire d'un espion allemand, interprété donc par le méchant Donald Sutherland. Ça aussi, c'est une de ses caractéristiques. Il a joué beaucoup de rôles de méchants et qui découvrait qu'en fait, les Alliés avaient monté l'opération Overlord pour faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu beaucoup plus au nord qu'ils ne prévoyaient et qui s'apprêtait bien évidemment à en avertir ses chefs et qui, bien évidemment, sinon l'histoire ne serait pas ce qu'elle a été ni réussie. C'est pas le tout en tombant amoureux de Kate Nelligan. Je vous assure, ça faisait beaucoup pour un seul film de Richard Marquand. L'arme à l'œil, ça s'appelait Eye of the Needle. La bande originale de ce film était signée du grand Miklos Rossa, l'un des grands des années 50-60, qu'il était encore dans les années 80. Donc on va s'en écouter un très très large extrait, je l'espère, pour le plaisir de tout le monde, dans 24 notes secondes. Grande masse orchestrale propre à Miklos Rossa pour un extrait de la bande originale, le générique de fin, vous l'auriez sans doute compris ou écouté ou entendu, le générique de fin donc de L'arme à l'œil et de Eye of the Needle, un film de Richard Marquand tourné en 1980 avec dans les rôles principaux la délicieuse, quoique bien rare sur les écrans, Kate Nelligan et Donald Sutherland, auxquels nous consacrons l'émission de 24 notes secondes de ce jour et duquel je vous disais avant d'écouter cet extrait eh bien qu'il s'illustrait dans les genres les plus différents et dans les films les plus différents, puisque dans les années 80-90, cela va de Une saison blanche et sèche, d'après André, je crois, Brink, un auteur sud-africain, où il jouait donc aux côtés de Marlon Brando. Dans mon souvenir, donc, ça va de Une saison blanche et sèche, c'est difficile à dire, à Backdraft, une grosse production sur les pompiers, un peu pompière aussi d'ailleurs, de Ron Howard, tourné en 1991, au JFK d'Oliver Stone en 1991. On n'aura pas oublié cette scène fameuse où Donald Sutherland fait comprendre à demi-mot à Kevin Costner, qui enquête sur la mort de JFK, eh bien que tout ça, c'est la faute du complot militaro-industriel. Mais oui, bien sûr, parfois Donald Sutherland n'a dans certains de ses films que des rôles, disons, mineurs, mais chacune de ses apparitions crève l'écran. Il y a des gens comme ça dont le charisme crève l'écran, et c'est le cas du susdit. On le revit ensuite, je ne vais pas vous égrener fastidieusement la liste de tous ces films, surtout qu'il faut laisser place à la musique. On le vit aussi dans le film de vétéran, le Space Cowboy de Clint Eastwood en 2000, avec Clint Eastwood et Tommy Lee Jones et quelques autres. C'était assez jouissif pour ceux qui se sentent un petit peu vétérans. Et puis, retour à la musique, on le vit en 2003 dans une sorte d'autant en emporte le vent du pauvre. Ça s'appelait Retour à Cold Mountain, un film du regretté Anthony Minghella, qui mettait dans les rôles principaux Nicole Kidman, Renée Zellweger et Jude Law. Je vous le dis, ça ressemblait beaucoup à Autant n'emporte le vent, mais ce n'était pas Autant n'emporte le vent. La musique non plus n'était pas celle de Max Steiner pour Autant n'emporte le vent, mais elle était signée Gabriel Yared. C'était pas mal non plus, et on va s'en écouter un petit extrait sur Divergence FM. Thank you. mais c'est plus que pas mal non plus, c'est absolument délicieux, un extrait de la bande originale de Retour à Cold Mountain, un film d'Anthony Minghella tourné en 2003, donc avec Jude Law, quelques autres, et Donald Sutherland, auquel nous consacrions cette émission de 24 notes secondes. Et bien cette émission, on va évidemment la finir en musique plutôt qu'en parole, et on va rester à peu près dans les mêmes tonalités, puisque quelque part en 2005, Donald Sutherland fut l'un des interprètes du délicieux Orgueil et Préjugés adapté de Jane Austen par Joey White, une petite merveille avec Keira Knightley dans le rôle de l'une des sœurs Bennett, celle qu'il s'agit de marier. C'était absolument délicieux, le nom du compositeur m'échappe, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, mais on va s'écouter un petit extrait pour rester dans la douceur, dans un monde de brut, sur Divergence FM. Merci Dario Marianelli, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.